VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Conflit en Libye, 2 policiers tués et 4 autres personnes blessées lors d'une frappe aérienne contre un commissariat dans la nuit de mardi à mercredi dans la banlieue de Tripoli, la capitale. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministère de l'Intérieur du GNA, le gouvernement d'Union nationale reconnu par l'ONU. Le GNA attribue l'attaque aux forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen qui assiège Tripoli depuis le 4 avril. Selon l'ONU, les combats opposant les partisans du GNA dirigés par Faez al-Sarraj aux troupes du maréchal Haftar, qui contrôle déjà non seulement l'Est mais aussi une grande partie du sud de la Libye, ont fait au moins 1093 morts et 5752 blessés, dont des dizaines de civils. Plus de 128 000 résidents des zones affectées ont quitté leur foyer pour échapper aux violences. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant au Mali, où elle termine sa tournée dans la sous-région. Après avoir visité auparavant le Burkina Faso et le Tchad, la ministre française des armées, Florence Parly, a annoncé mardi que des forces spéciales mises à disposition par des pays européens devraient être déployées en territoire malien en 2020. Le point avec Jean-Roger Bion.
L'unité s'appellera Takuba, Sabre en Tamashek, langue Touareg, en écho au nom de la Task Force Sabre des forces spéciales de l'opération Barkhane au Mali. Florence Parly a précisé qu'une dizaine de pays européens sollicités ont donné des retours positifs. Devant les soldats de Barkhane à Gao, elle a précisé que dès 2020, ces forces spéciales des pays européens seront déployées au Mali aux côtés des forces spéciales françaises pour transmettre un savoir-faire d'exception aux unités maliennes. Son déplacement à Gao a été tenu secret jusqu'au dernier moment. Sa tournée au Sahel a été assombrie par la mort d'un soldat français samedi dans l'explosion d'une bombe artisanale. Cette attaque a été revendiquée par le groupe État islamique, tout comme celle du vendredi où 49 soldats maliens ont été tués près de la frontière avec le Niger. Un mois plus tôt, 40 soldats maliens avaient trouvé la mort dans une double attaque à Bolkesi et Mondoro près de la frontière avec le Burkina Faso.
Les violences dans le nord et le centre du Mali ont fait beaucoup de victimes et malgré l'arrestation de quelques auteurs présumés d'exactions, les autorités maliennes n'arrivent pas à rendre justice aux personnes affectées. Les associations des droits humains travaillent pour appuyer les pouvoirs publics et la communauté internationale afin de trouver une solution rapide au problème. Kadia Toutraoré a reçu dans nos studios Mme Bintou Founé Samake Bouhari, présidente de Wildaf Mali, une association de promotion des droits et du développement des femmes. Madame Samake fait partie du réseau des défenseurs des droits humains dans le pays.
Mon association s'occupe surtout des femmes et des femmes victimes de violences sexuelles. Pour l'accès de ces femmes à la justice, plusieurs mécanismes ont été développés par le gouvernement du Mali, mais aussi par la communauté internationale. Le gouvernement du Mali a tout d'abord mis en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Et cette commission avait pour mandat de pouvoir vraiment enregistrer toutes les victimes qui venaient à elle et de pouvoir faire la part des choses. Nous, à notre niveau aussi, nous avons fait le monitoring des violences sexuelles. Et aujourd'hui, ma structure a enregistré plus de 174 cas de femmes victimes de violences sexuelles. Et sur ces 174 cas, il y a 43 cas qui ont été portés devant les juridictions.
Alors, si je comprends bien, ces victimes-là attendent toujours d'être
rétablies dans leurs droits.
Il y a des voix qui se lèvent à l'extérieur ou même avec les organisations de défense des droits humains internationales disant qu'il y a trop de problèmes, ils prennent des gens, après on les libère, on les emprisonne, on les libère. Alors qu'est-ce que vous faites pour que ce processus puisse vraiment voir le jour rapidement et que les victimes puissent être rétablies dans leurs droits?
Bon, ce que nous faisons déjà, nous essayons d'utiliser les mécanismes qui sont en place. Le gouvernement du Mali avait mis en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Mais en plus de ça, le gouvernement du Mali a mis également en place le pôle antiterroriste. Et la question des violences sexuelles était reconnue par ce pôle comme des infractions connexes aux actes de terrorisme.
Mais le constat est que c'est trop lent. Qu'est-ce qui bloque?
Bon, qu'est-ce qui bloque, c'est que les institutions judiciaires ne sont pas très aptes à pouvoir juger de ces cas-là.
Pourquoi ?
Parce que soit ils ont des faiblesses institutionnelles, soit ils sont en face d'insuffisance de moyens pour connaître de ces violations. Et aujourd'hui, nous sommes en face à la préparation d'un procès qui est au niveau de la CPI. Les choses sont en train de s'accélérer et nous pensons que très bientôt, ce procès se déroulera et les victimes du Mali participeront à ce procès pour faire valoir leurs droits.
Madame Bintou Founès-Samaké-Boiré, présidente de Wildaf Mali, au micro de Kadiatou Traoré.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique australe, au Malawi, de violents affrontements ont opposé des chrétiens et des musulmans après le refus d'une école anglicane d'accueillir des jeunes filles portant le voile islamique. Le point avec Yacouba Oudraogo.
Deux personnes ont été hospitalisées à l'issue de ces heurts survenues lundi dans le district de Balaka, dans le sud-est du pays. Parmi elles figure un chef religieux musulman. Les violences ont opposé pendant plusieurs heures chrétiens et musulmans, causant d'importants dégâts dans des écoles, des maisons et une mosquée du district, selon Joseph Saouka, un responsable provincial de la police. Le calme est revenu hier dans la région. Le porte-parole de la communauté musulmane Dinala Chabulika a attribué la responsabilité des incidents au refus de l'église anglicane d'accepter des fillettes voilées dans l'école, alors que le gouvernement interdit toute discrimination envers les enfants portant des signes religieux. Les deux tiers des 19 millions de Malawites se disent de confession chrétienne. Les incidents entre communautés religieuses sont très rares au Malawi.
République démocratique du Congo, 6 civils ont été tués mardi soir dans une attaque attribuée à la milice d'origine ougandaise des ADF, les forces démocratiques alliées, à 60 km au nord de Beni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Les ADF ont fait une incursion vers 20h dans la localité de Kokola et ils ont tué 6 civils, certains par arme blanche et d'autres par arme à feu, a déclaré à l'AFP Donat Kibwana, administrateur du territoire de Beni. L'armée nationale congolaise avait annoncé la semaine dernière des opérations d'envergure dans la région de Beni, théâtre de massacres de civils depuis 5 ans et d'une épidémie d'Ebola déclarée le 1er août 2018. Deux responsables de la société civile locale ont regretté que les opérations militaires se concentrent autour de la ville de Beni, qui abrite notamment une base de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC. Par ailleurs, la force de casque bleu en RDC pourrait être retirée progressivement sur 3 ans, sous condition pour les autorités congolaises de respecter plusieurs paramètres. C'est ce qui est proposé dans un rapport onusien remis récemment au Conseil de sécurité de l'ONU. Obtenu par l'AFP, ce document fait suite à une évaluation stratégique de la mission demandée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le Conseil de sécurité, qui doit se prononcer en décembre sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO, va discuter prochainement de ce rapport. Actualité hors d'Afrique maintenant, l'Iran a annoncé la reprise de ses activités d'enrichissement d'uranium jusque-là gelé. Téhéran réduit ainsi ses engagements internationaux en matière nucléaire. Irénée Armanongbo.
La mesure dévoilée par le président Hassan Rouhani survient au lendemain de l'expiration d'un délai donné par Téhéran à ses partenaires dans l'accord conclu à Vienne en 2015 pour que ces derniers l'aident à contourner les conséquences du retrait des États-Unis de ce pacte. L'Iran va reprendre les activités d'enrichissement d'uranium de son usine souterraine de Fordow au sud de Téhéran qu'il avait gelée en vertu de l'accord de Vienne, a indiqué M. Rouhani. Conformément à ce texte, l'Iran dispose à Fordow de 1044 centrifugeuses de première génération IR1 qui tournent à vide ou sont à l'arrêt. À partir de demain, nous commencerons à injecter du gaz à Fordow, a annoncé Hassan Rouhani, faisant référence au procédé utilisé pour produire de l'uranium enrichi à partir de ces machines. Le Kremlin dit comprendre les inquiétudes de la République islamique face aux sanctions américaines. À la tête de la diplomatie européenne, Federica Mogherini a exhorté l'Iran à ne pas prendre de nouvelles mesures qui mineraient davantage ce pacte et rendrait encore plus difficile son sauvetage.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, le candidat démocrate Andy Beshear a remporté mardi l'élection pour le poste de gouverneur du Kentucky, un État du Midwest. Il a battu le républicain Matt Bevins, le gouverneur sortant, que le président américain Donald Trump avait soutenu lors d'un meeting de campagne à la veille du scrutin. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. J'ai longtemps